À l'occasion de l'automne de l'Institut de la photographie de Lille, un vernissage de l'expo qui rassemblait plusieurs artistes s'est déroulé le 3 novembre. L'expo sera visible jusqu'au 24 décembre prochain. Et j'ai pu rencontrer Anne Lacoste, directrice de l'Institut, pour en savoir plus sur ce temps fort, mais aussi parler de cette structure, toute jeune et qui a un bel avenir devant elle. Anne Lacoste, bonsoir.
Bonsoir.
Donc on est évidemment à l'Institut pour la photographie à Lille pour cette inauguration, on va dire, avec ces artistes qui sont invités pour fêter l'automne. Alors d'abord, première question que j'ai envie de vous poser, on peut peut-être revenir un petit peu sur l'histoire de cet institut. Quand est-ce qu'il est né? Je pense que c'est assez jeune.
Oui, effectivement, l'institut est né en 2018.
Et alors, donc, aujourd'hui, vous pouvez nous résumer un petit peu tous les artistes que vous avez sélectionnés pour cette soirée? Vernissage.
Oui, alors pour cette programmation, nous avons invité 8 artistes contemporains dont la plupart sont de la région et qui nous permettent d'aborder des thématiques d'actualité. On a effectivement la question du genre avec une relecture de l'œuvre de Bettina Reims. On a aussi des questions sur le pouvoir, sur la question aussi de la légitimité de l'art graphe. Donc plusieurs thématiques qui sont en lien avec notre quotidien.
Alors comment on fait vivre justement une institut pour la photographie? Comment ça marche?
Nous avons différentes missions qui nous permettent de faire vivre l'institut au quotidien. Un programme de bourse qui nous permet de soutenir des projets de recherche chaque année, 4. Une mission dans la transmission artistique et culturelle qui intervient dans différents domaines, que ce soit scolaire ou social, pour éduquer à la lecture critique de la photographie en incitant aussi à la pratique. Nous avons aussi une bibliothèque qui comprendra plus de 30 000 ouvrages qui seront consultables au public gratuitement. Et nous avons aussi une politique éditoriale avec notamment le lancement de la collection des carnets avec les éditions d'Elpire.
On peut parler des fonds également?
Oui, nous avons une mission patrimoniale pour conserver et valoriser les fonds d'archives de photographes d'intérêt national, c'est-à-dire d'origine française ou étrangère, mais qui ont développé une œuvre importante en France. Et pour l'instant, nous en avons 3, Bettina Reims, Agnès Varda et Jean-Louis Schwelkopf. Et tous les 3 sont présentés actuellement à l'Institut.
Et je crois aussi savoir que l'Institut est le deuxième plus grand centre de photographie européen.
Ce serait un peu prétentieux, mais par contre, c'est vrai qu'avec cette collection de plus de 30 000 ouvrages, nous devenons une référence mondiale dans l'histoire de l'édition photographique grâce à la donation de Lucien Birger.
J'imagine qu'il va y avoir aussi des travaux qui sont prévus bientôt. Comment ça va se passer?
Oui, effectivement, c'est notre dernière programmation d'exposition sur le site où nous allons donner rendez-vous aussi sur les grands événements de l'Institut, comme le salon du livre photo, les open folio pour les photographes de la région pour qu'ils puissent partager leurs travaux avec le public, mais aussi des experts. Et effectivement, nous déménageons l'année prochaine pour le commencement des travaux du projet architectural que nous présentons actuellement.
Vous faites des ateliers aussi hors les murs? Comment ça se passe? Comment on peut s'inscrire? Est-ce que c'est en famille, etc.?
Oui, effectivement, on a des ateliers là pendant toute la programmation et des visites, ateliers qui jouent aussi notamment sur les sens, les différents sens, pas seulement la vue, qui sont organisés par notre département de transmission artistique et culturelle et qui peuvent être réservés en ligne, mais aussi en contactant quand cela concerne des écoles en lien directement avec le département de transmission artistique et culturelle. Mais c'est vrai que pendant toute cette programmation, il y a des rendez-vous réguliers où le public peut s'inscrire.
Site internet, évidemment, j'imagine, vous pouvez nous le dire un petit peu?
Oui, effectivement, c'est disponible en ligne sur notre site internet institut-photo.com.
J'imagine qu'aussi cette expo va être visible un petit bout de temps.
Oui, l'exposition est ouverte jusqu'au 24 décembre.
Et il y a des horaires précis pour venir?
Nous sommes ouverts de 14h à 19h, du jeudi au dimanche.
J'ai pu également rencontrer l'un des artistes qui exposait lors de ce vernissage, Olivier Despicht, qui a choisi le photomaton pour un exercice imposé sur l'autoportrait. La cabine devient un espace de mise en scène de soi. Au cours des séances, il apprend à maîtriser la machine, il vérifie le cadrage dans le reflet de la vitre et connaît le temps de son déclenchement. Entretien avec l'artiste pour évoquer son travail. Olivier Despicht, bonsoir.
Bonsoir.
Donc on est ici l'automne de l'Institut pour la photographie de Lille, où vous exposez plusieurs œuvres qui s'appellent Photomaton. Alors d'abord, pouvez-vous nous expliquer un petit peu Photomaton, évidemment, c'est un peu comme les Polaroïdes, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Comment vous est venue l'idée de 1992 jusqu'à 2003 pour prendre ces photos?
Au départ, c'est un projet d'étudiant. Où c'est une demande du prof qui nous demande de faire des autoportraits. Et j'expérimente différentes manières de pouvoir me photographier, dont le photomaton. Et puis en fait, il y a des choses, une attirance qui me dirige vers ce médium et cet appareil. Il y a le côté ludique, déjà. On s'amuse quand on va dans un photomaton, se mettre en scène dans une cabine qui est un mini-studio. Donc il y a cet aspect-là qui fait que ça prend forme petit à petit. Puis vous me voyez avec des lunettes, à la radio ça se voit pas, mais sur les photomatons je suis sans les lunettes et je découvre aussi ma tronche sans les lunettes. Et je peux être plusieurs, quoi.
Et c'est un peu une histoire de famille d'ailleurs, toutes ces photos.
Disons que cet aspect ludique et performatif, parce qu'il faut voir qu'on est dans une cabine photomaton, donc un lieu public. Il y a des gens qui attendent pour faire leurs photos aussi. Donc il faut prendre des décisions très rapides. C'est ça aussi l'intérêt de ce médium, cet outil. C'est qu'on ne réfléchit pas, on agit très vite. Et en fait, cet aspect-là, je veux le faire goûter à mon épouse dans un premier temps. Puisqu'il y a cette partie autoportrait en couple, et puis ensuite à mes enfants. Avec mes enfants, je pense pas qu'ils se rendent vraiment compte de ce qui se passe. Ils s'amusent avec nous, ils se mettent en scène, ils font même le trublion, parce qu'un enfant, c'est difficile de lui dire « tiens la pose ». Donc il vient faire l'élément, le poil à gratter dans la composition, en fait.
Est-ce que vous aviez une cabine attitrée pour faire ces photos, ou alors vous vous servez de toutes les cabines qui sont disponibles dans n'importe quelle ville?
Comme tout humain, il y a des rituels, oui, effectivement, il y a des habitudes. On est dans une vie courante. En l'occurrence, pour les autoportraits seuls, c'était pas loin de chez mes parents. J'habitais encore chez mes parents, donc j'allais dans une galerie marchande pas loin de chez mes parents. Et effectivement, il y avait un photomaton qui était dédié. C'est d'ailleurs là que je rencontre le technicien qui me permet de rentrer dans les entrailles de la machine, en fait, et qui permet un trafic des couleurs.
Justement, en parlant de trafic, vous parliez de mise en scène tout à l'heure. Là, il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes. Est-ce que c'est des choses qui ont été retouchées ou c'est vraiment du...
C'est le produit qui est sorti de la machine, là.
D'accord.
Et effectivement, ces interventions, c'est le technicien qui dérègle. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est une roue avec des filtres qui permet de régler la couleur précisément, mais dans le bon sens du terme, pour les photos d'identité. Et lui, il les dérègle volontairement pour jouer avec moi, en fait. Il me permet d'une part de faire des économies,
quand même, ouais.
Parce que c'était pour moi étudiant, ça me coûtait cher, et lui, ça lui évite de faire le test quand il a réglé bien la machine, et d'avoir sa tronche, parce que ça le fait chier, lui, c'est régler la machine, pas sa tronche qu'il veut.
En parlant de mise en scène, donc il y en a quelques-unes qui sont fort intéressantes, là, pour décrire celle-là, justement, où il y a un petit peu un côté, je dirais pas ecclésiastique, mais pas loin.
C'est clairement, oui, là, on est complètement dans le côté... effectivement, je remonte le col d'une veste que j'avais achetée en friperie, puis je m'aperçois avec la chemise blanche que j'ai en dessous, ça fait un petit motif de la tenue des prêtres, en fait. Voilà. La référence, elle est plus à Jack Nicholson.
Vous parliez tout à l'heure que ça fait une sorte d'album de famille, hein, mais pas que. Et en plus, vous voyez d'une période à une autre, votre visage qui change, qui bouge, enfin qui est plus le même. Mm-hmm. Aujourd'hui, quel constat vous faites de ces photos?
Je l'ai très vite fait, ce constat de constater qu'effectivement, je pouvais être plusieurs. Et ça m'intéressait parce que quand je vais vers la photographie, c'est pour faire du portrait. Je veux faire de la photographie pour faire du portrait. Donc quelque part, le prof, quand il nous demande de faire des autoportraits, il me rend service parce qu'il me permet d'étudier à travers mes images, à travers mes autoportraits, me dit, je constate que en fonction de comment je place mon visage, je peux être différent. Donc ça me permet de retransposer ça vers les modèles, en fait.
Et justement, est-ce qu'il y a eu à un moment donné des ratés, mais que vous avez gardés parce que vous vous êtes dit, il y a quelque chose d'encore plus original que ce qui était prévu au départ?
Oui, il y a des surprises, oui, effectivement. Il y a des réglages comme celle-ci. C'est le produit qui est sorti de la machine, mais c'est même pas... Là, j'avais mis aucun filtre, rien, normalement. Donc, j'aurais dû avoir des couleurs plus comme le portrait là-bas. Et en fait, il se trouve que là, ça sort noir. La machine est mal réglée. Okay. Mais en même temps, elle me plaît, parce que justement, ce côté très éteint fait presque peur, ce personnage. Il y a le côté le portrait qui disparaît.
Le photomaton, est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que vous continuez éventuellement à... Est-ce qu'il y aura peut-être une autre série maintenant, avec d'autres périodes de votre vie, éventuellement?
C'est pas prévu pour le réutiliser, le photomaton. Ça nous arrive de temps en temps, dans des lieux institutionnels, de faire un photomaton. Enfin, je vois, maintenant, ils en ont réhabilité un dans l'Institut. Donc, tout à l'heure, on en a fait un avec mon épouse. J'en ai fait à Anvers, au FOMU. Donc, c'est le musée de la photo à Anvers. Ça nous arrive d'en faire, mais de façon très, on va dire, plus intentionnelle, on ne le fait plus. Peut-être, mais il ne faut jamais dire jamais. Hein.
Et du coup, c'est la première fois que vous exposez ici, dans ce lieu, cet institut pour la photographie?
Oui, c'est l'institut. En même temps, il est tout jeune. Donc,
oui, il est 4-5 ans,
c'est une première pour moi, cette...
Mais vous aviez déjà exposé ces photomatons ailleurs?
Ma première expo, c'est cette série-là en 91.
D'accord.
En 1991. Et ce travail-là a été montré plusieurs fois, mais jamais en entier comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui a été montrée à Bruxelles, dans une expo sur le portrait et l'autoportrait. Cette partie-là, elle a été montrée sur LM, à Cluny aussi. C'était ma première expo, j'étais encore étudiant. Mais l'ensemble, non. C'est la première fois, effectivement, qu'on le montre.
Et après, il y a le travail de couleur, de filtre, aussi, que vous parliez tout à l'heure. Selon les années, avec la nouvelle technologie, là, on sent le grain des années 90. Est-ce que c'est valable encore aujourd'hui? Est-ce que c'est la qualité? On peut encore tirer ce genre de... Avec ces couleurs un petit peu floues
Non. Maintenant, c'est une machine digitale et c'est vraiment pas bon.
Ah, d'accord.
D'un point de vue par rapport à ce type d'image, voyez, regardez de près la netteté, la qualité. J'ai eu l'occasion d'ouvrir la machine avec le technicien. Le caillou qu'il y avait dedans, c'est d'une optique magnifique, quoi.
Alors, vous me dites le caillou? Oui, vous expliquez un petit peu.
L'optique, l'objectif, en fait. Aujourd'hui, là, c'est une caméra bête et méchante. Bon, l'intérêt de l'outil d'aujourd'hui, c'est qu'on peut répéter 3 fois avant de choisir la bonne photo.
D'accord.
Là, c'était un one shot. Ouais, et on prenait, c'était bon ou c'était pas bon. Mais...
Bon, et enfin, dernière question, vous avez d'autres projets après cette expo? D'autres projets d'expo photo, mais différentes peut-être?
Là, il y en a une qui vient de se terminer là en septembre, mais... Oui, il y a un projet, mais il n'est pas encore signé, donc c'est délicat d'en parler.
Okay.
Normalement, c'est en mars 2024, donc j'attends la validation du projet, mais c'est vrai que ça pourrait être assez chouette aussi.
C'était un reportage réalisé lors du vernissage de l'événement L'Automne de l'Institut photographique de Lille. Cet événement s'est déroulé le 3 novembre et je vous rappelle que les expos seront visibles jusqu'au 24 décembre 2023.